Chapitre 12. Le traité conclu entre Octave et Antoine, Antoine revint à Rome avec Octave, devenu son beau-frère, après avoir été son beau-fils. Là, Octave se sacra prêtre de César. César avait été nommé Dieu. C'était un accord touchant, une alliance à ramener les plus inquiets. Seulement, une ombre obscurcissait cette bonne harmonie. Dans les divers combats, dans les jeux, quels qu'ils fussent, combats de cailles ou de coqs, ces sortes de combats étaient fort en vogue à Rome, jeux d'adresse ou de hasard. Octave était joueur comme les dés eux-mêmes, Antoine avait toujours le désavantage. Non seulement Antoine était profondément blessé de cette supériorité, mais ce qui jetait le plus d'amertume en son âme, c'est qu'il avait près de lui un devin égyptien qui ne laissait pas échapper une occasion de lui faire remarquer cette supériorité du génie d'Octave sur le sien. Cet homme, soit qu'il voulût plaire à Cléopâtre, soit qu'il lui parlât avec sincérité, allait sans cesse lui répétant « Toute grande et éclatante que soit la fortune d'Antoine, elle s'éclipse devant celle de César. Éloigne-toi de ce jeune homme le plus que tu pourras. Ton génie redoute le sien. Fier et haut lorsqu'il est seul, il perd devant celui de César toute grandeur et devient faible et timide. » Ces avertissements répétés décidèrent Antoine. Il prit pour prétexte de quitter Rome pour sa guerre des Parthes et, laissant ses affaires aux mains de César, il quitta l'Italie, emmenant en Grèce sa femme Octavie, dont il avait une fille. Il s'arrêta à Athènes pour y passer l'hiver. Là, il reçut des nouvelles de Ventadius, auquel il avait confié la conduite de la guerre parthique. Ces nouvelles étaient excellentes. Ventidius avait battu l'ennemi. Labienus, l'ancien lieutenant de César, et Pharnapathès, le plus attaché des généraux de ce fameux roi Orode, avec lequel nous avons fait connaissance à propos de Crassus, étaient restés parmi les morts. Cette nouvelle causa une si grande joie à Antoine qu'il en donna un grand repas aux Athéniens. Le lendemain de ce repas, il présida lui-même aux exercices gymnastiques et, laissant chez lui toutes les marques de sa dignité, il se rendit au gymnase vêtu d'une longue robe, chaussé de pantoufles à la grecque et tenant à la main la verge que les juges avaient l'habitude de porter, de sorte que, lorsque les jeunes gens avaient combattu, c'était lui qui les séparait. Au moment où il quitta Athènes pour se rendre à l'armée, il prit une couronne faite des branches de l'olivier saint, et pour obéir à un oracle rendu, il alla, pour l'emporter avec lui, puiser dans un vase de l'eau d'une fontaine qu'à cause de son intermittence, on appelait la fontaine de Clepsydre. Pendant le voyage, il reçut un nouveau courrier de Ventadius. Il avait battu les Parthes une seconde fois. Le fils du roi qui était entré en Syrie, Pacorus, vous vous rappelez encore ce nom, n'est-ce pas, mes chers lecteurs, avait été tué dans l'action. C'était la revanche prise par les Romains de la défaite de Crassus. Les Parthes, battus une troisième fois, furent obligés de se renfermer dans la Médie et la Mésopotamie. Ventidius les eut bien poursuivis, mais il craignait la jalousie d'Antoine. Il se contenta en conséquence d'aller assiéger dans Samosate Antiochus, roi de Commagène. Antiochus offrit 1000 talents, plus de 5 millions de notre monnaie, et s'engagea à obéir ponctuellement aux ordres d'Antoine s'il ne voulait pas poursuivre le siège et aller combattre dans une autre province. Mais Ventidius fit dire au roi assiégé qu'il transmettrait les propositions à Antoine, lequel déciderait. En effet, Antoine répondit qu'il était bon de l'attendre et qu'il arrivait pour signer la paix en personne. Antoine était fort orgueilleux. C'était celui qui signerait la paix qui serait censé avoir fait la guerre. Mais cet orgueil perdit Antoine. Lorsqu'il arriva dans la ville, il trouva les assiégés déterminés à une résistance désespérée, et comme il ne fit rien de bon ni de grand devant cette ville, il finit par accepter d'enlever le siège, moyennant 300 talents au lieu de 1000. Il perdait près de 4 millions à n'avoir pas traité tout de suite et par l'entremise de Ventidius. Les victoires de Ventidius étaient de l'an 37 et 38 avant Jésus-Christ. Antoine l'envoya triompher à Rome en demandant le grand triomphe. C'était le premier général romain qui eut battu les Parthes. En Arménie, Antoine passa une revue de son armée. il avait 60 000 hommes d'infanterie, tous italiens, 12 000 cavaliers, tant espagnols que gaulois, et 30 000 autres hommes de diverses nations. Ces préparatifs menaçaient particulièrement Phraate, mais Antoine n'avait qu'un désir, c'était non pas de se battre, mais d'aller rejoindre Cléopâtre en Égypte. Aussi fit-il dire à Phraate que s'il voulait lui renvoyer les enseignes prises à Crassus et ceux des prisonniers romains qu'il tenait encore vivants, il lui accorderait la paix. Phraate ne répondit point et attendit Antoine. À son grand regret, Antoine était donc forcé de faire la guerre. Seulement, rien ne le forçait de la commencer tout de suite. Au lieu de laisser reposer son armée fatiguée par une marche de 400 lieues, aussi insensé que si la belle reine d'Égypte lui eût fait prendre l'hippomane qui rendit Caligula fou, espérant avoir tout terminé avant l'hiver et pouvoir passer l'hiver à Alexandrie, il se mit en marche en automne, se faisant suivre par toutes les machines de guerre nécessaires à un siège, parmi lesquelles un bélier de 80 pieds de longueur. Or, aucune de ces machines venant à se rompre ne pouvait être remplacée, la haute Asie ne produisant point d'arbres assez beaux, ni de bois assez dur pour être employé à ses usages. Bientôt, comme il s'aperçut que ces machines, qu'il avait crues indispensables, retardaient sa marche, il ne les crut même plus nécessaires et les laissa derrière lui sous la garde d'un corps de troupes que commandait Statianus et continua son chemin vers Phraate, affaibli de ses machines et diminué du corps d'armée qu'il avait laissé pour les garder. Phraate, qui le faisait suivre par des coureurs invisibles, laissa Antoine mettre 3 journées d'intervalle entre lui et ses machines et lança alors un corps de cavalerie contre Statianus. Statianus se fit tuer, les 10 000 hommes qu'il avait avec lui se firent tuer, les machines furent mises en pièces. Antoine sut cette mauvaise nouvelle avant même d'arriver devant Phraate. Manquant de machines, il fut obligé de dresser une levée pour pouvoir combattre, mais tandis qu'il dressait cette levée, Phraate arriva avec son armée. Les Parthes se présentèrent devant les assiégeants avec leur fierté habituelle et les Romains, pris entre une ville et une armée ennemie, commencèrent à murmurer tout bas le nom de Crassus. Antoine entendit ce nom, souvenir fatal, si bas qu'il eût été prononcé. Il voulut, par une victoire, remonter le moral de ses troupes. Il prit avec lui 10 légions, 3 cohortes prétoriennes pesamment armées, toute sa cavalerie, et les mena fourragés. Il était convaincu que c'était le seul moyen de tirer l'ennemi hors de ses retranchements et d'en venir avec lui à une bataille rangée. En effet, après une journée de marche, il vit les Parthes se répandre autour de lui, selon leur manière habituelle de combattre, se tenant prêts à la première fausse manœuvre à tomber sur ses troupes. Alors il éleva son camp et donna le signal de la bataille. Puis, comme s'il changeait de résolution et ne voulait point combattre, il fit plier les tentes et ramena ses troupes. Seulement, tous les capitaines avaient le secret de cette fausse retraite. La cavalerie avait ordre, dès qu'elle verrait les bataillons, ou plutôt les escadrons partent, à portée d'être chargés par l'infanterie, de charger elle-même. L'armée de Phraate était disposée en forme de croissant. Les Romains passaient sur son front, et ces barbares qui se battaient sans aucun ordre, comme les Bédouins modernes leurs enfants, ne pouvaient se lasser d'admirer l'ordonnance de l'armée romaine, voyant marcher les soldats d'Antoine, sans que ceux-ci rompissent jamais leurs intervalles ni leurs rangs, et en brandissant leurs javelots dans le plus profond silence. À un moment donné, les Romains se trouvèrent assez près des Parthes pour que l'ordre reçu fût exécuté. La cavalerie alors fit un demi-tour à gauche et chargea vivement en poussant de grands cris. Les Romains étaient sur les Parthes avant que ceux-ci eussent eu le temps de bander l'arc. Ils la reçurent néanmoins vigoureusement. Mais derrière la cavalerie venait l'infanterie, poussant à son tour de grands cris et faisant résonner ses armes. Malgré cette double attaque si inattendue et si bien combinée, ce ne furent point les hommes qui s'effrayèrent, mais les chevaux. Ils se cabrèrent, tournant sur leurs pieds de derrière et emportant leurs cavaliers. Antoine montra à ses hommes l'ennemi qui fuyait et se lança à sa poursuite. Il espérait qu'un seul combat terminerait la guerre, ou du moins on avancerait le dénouement. Mais, avec leurs armures légères, avec leurs chevaux rapides comme le vent, Les partent s'évanouirent ainsi qu'une poussière et, au bout de deux ou trois lieues de poursuite, avaient disparu complètement au regard des Romains. La cavalerie n'avait renoncé, elle, à la poursuite qu'au bout de six ou sept lieues. Mais lorsqu'elle se fut ralliée à l'infanterie, lorsqu'on compta, après cette grande défaite, les tués et les prisonniers, il se trouva que les Parthes avaient laissé aux mains de leurs ennemis 30 prisonniers et 80 morts. Alors ce fut un découragement suprême. Les Parthes, dans leur défaite, avaient perdu 110 hommes en tout. Les Romains, dans la leur, avaient perdu 10 000 hommes et toute leur machine de guerre. Il fallait s'attendre à procéder dans cette proportion. Aussi, dès le lendemain, reprit-on le chemin du camp. Mais d'abord, les Romains, dans leur marche, commencèrent par rencontrer un corps d'ennemis peu considérable, puis un plus nombreux. Enfin, l'armée entière, fraîche et reposée, comme si elle n'eût point été battue. Aussi, le retour au camp fut-il plein de difficultés. Au moment où ils se rapprochaient de la ville, Antoine donna dans des soldats romains qui fuyaient. C'étaient ceux qu'il avait laissés devant la ville qui, attaqués par les assiégeants, avaient été battus par eux. Antoine les rallia, mais à peine ralliés, il les fit mettre par groupe de 10 hommes et dans chacune de ces dizaines, il en prit un qu'il fit mettre à mort. Le sort décida de la victime. Ceux qui restaient eurent pour nourriture de l'orge au lieu de froment. La position, au reste, était critique des deux côtés. Antoine risquait de mourir de faim, les Parthes rendaient le fourrage impossible. De son côté, la saison froide s'approchant, Phraate courait risque d'être abandonné par les siens. Phraate eut recours à la ruse. Il donna ordre aux plus distingués d'entre les Parthes de ne s'opposer que faiblement aux Romains, de leur laisser même quelques avantages, de louer leur valeur, de rendre justice à leur courage et de leur dire que leur roi les regardait avec admiration et les tenait pour les premiers soldats du monde. Les Parthes obéirent, s'approchant des Romains et liant conversation avec eux, selon les ordres de leur chef, accablant Antoine d'injures et disant que c'était lui qui, par son entêtement à ne point écouter les propositions de leur roi, était cause qu'au lieu d'être amis, les deux peuples s'égorgeaient. Les soldats reportèrent ces discours à Antoine. Il n'y voulait pas croire. Mais il vint aux avant-postes, déguisé en simple soldat, et les entendit de ses oreilles. Alors Antoine se hasarda à envoyer quelques messagers de paix au roi Phraate. Ils étaient chargés de dire que, s'ils voulaient rendre les enseignes et les prisonniers laissés par Crassus aux mains des Parthes, ils se retireraient. Phraate accueillit à merveille les messagers, mais il répondit que, quant aux enseignes et aux prisonniers, il n'y fallait plus songer, les enseignes étant perdues et les prisonniers étant morts. Mais que, si Antoine voulait se retirer, ni lui ni ses soldats ne seraient inquiétés dans leur retraite. Antoine n'avait point d'autre parti à prendre que d'accepter ces conditions. Seulement, il était bien sûr que Phraate ne tiendrait point la foi jurée. Le seul avantage qu'il y trouvait, c'est que ce semblant de paix sauvegarderait l'honneur romain. Néanmoins, il était tellement découragé que, les tentes pliées, les bagages chargés, au lieu de haranguer lui-même les soldats, ce fut Domitius Enobarbus qu'il chargea de ce soin. Il en résulta que beaucoup, prenant ce silence pour du mépris, s'en offensèrent. D'autres, au contraire, pénétrant la cause de ce silence et voyant leur général triste et le front courbé, témoignèrent à Antoine plus de respect et d'obéissance qu'auparavant. Antoine, dans son insouciance, ou plutôt dans son abattement, allait, sous prétexte qu'il était tout exploré, prendre le chemin par où il était venu. Or, ce chemin était une plaine découverte et sans arbres. Par bonheur, un homme du pays des Mardes, familier avec les mœurs des Parthes, et qui, lors de l'abandon des machines, avait donné à Antoine de si bons conseils qu'il n'était point permis de douter de sa fidélité, le vint trouver, lui conseillant d'appuyer à droite et de gagner les montagnes, plutôt que d'engager des troupes pesamment armées et chargées de bagages, dans des plaines nues et découvertes, où l'ennemi aurait double avantage avec ses chevaux et ses flèches. C'est pour que tu fasses cette faute et qu'en la faisant tu te livres à lui que Phraate t'a accordé des conditions si favorables, lui dit-il. Mais si tu veux, je serai ton guide et te conduirai par une route plus courte sur laquelle rien ne te manquera. » On avait un précédent terrible. Pour s'être fiés à un guide infidèle, Crassus et son armée avaient péri. « Quelle garantie de ta fidélité me donneras-tu ? » dit Antoine au marde. « Fais-moi lier jusqu'à ce que j'ai conduit ton armée en Arménie, » répondit celui-ci. Pendant 2 jours, rien ne troubla la marche des Romains, et le marde les guida ainsi liés. Le 3e jour, comme Antoine ne songeait à rien moins qu'aux Parthes, on vint lui dire que le guide l'avertissait qu'il eût à mettre son armée en bataille, attendu que l'ennemi n'était pas loin. « Qui le lui fait croire ?» demanda Antoine. Il y avait une digue qui empêchait l'eau du fleuve de se répandre dans la plaine, répondit-il. Or la plaine est inondée, donc la digue est rompue. Cette rupture, c'est l'œuvre des Parthes qui veulent entraver notre marche. Que le général se tienne donc sur ses gardes ou s'y mette s'il n'y est pas. Antoine doutait encore. Cependant, à tout hasard, il donna ses ordres en conséquence. À peine Antoine avait-il mis son armée en bataille et placé entre les rangs les frondeurs et les gens de trait destinés à tenir l'ennemi à distance, que celui-ci parut, enveloppant les Romains de tous côtés et cherchant à mettre le désordre dans leurs rangs. Mais, à l'ordre d'Antoine, les troupes légères fondirent aussitôt sur les Parthes, qui, selon leur habitude, laissèrent en fuyant les Romains chargés dans le vide. 1 heure après, ils reparurent et se rapprochèrent d'Antoine. Mais cette fois, il lâcha sur eux la cavalerie gauloise qui les poussa avec tant de vigueur qu'ils disparurent et qu'on ne les revit plus de la journée. Cette tentative était un avertissement pour Antoine. Il garnit de frondeurs et d'archers son arrière-garde et ses 2 ailes. Il marcha ainsi avec précaution, s'éclairant de tous côtés, donnant ordre à sa cavalerie de charger à fond, mais de s'arrêter dès que l'ennemi serait rompu. De cette façon, pendant les 4 jours suivants, les Parthes reçurent des Romains autant de mal qu'ils leur en firent. Le 5e, Flavius Gallus, qui tenait rang parmi les premiers lieutenants d'Antoine et que celui-ci savait être homme de courage et d'activité, Flavius Gallus vint trouver le général, le priant de mettre sous son commandement le plus qu'il pourrait de troupes légères de l'arrière-garde et même un certain nombre des cavaliers plus lourdement montés qui tenaient le front de l'armée. Il promettait, moyennant cette confiance, si Antoine la lui accordait, de donner une telle leçon aux Parthes que ceux-ci ne se hasarderaient plus à attaquer les Romains. Quoique ceux-ci sentissent son Gaulois ou son Espagnol d'une lieue, les Gaulois et les Espagnols étaient les Gascons de l'époque, Antoine accorda à Flavius Gallus ce qu'il demandait. Au moment même où le nouveau commandant de la cavalerie légère venait de prendre ses dispositions, l'ennemi parut. Antoine s'empressa de faire dire à Gallus de ne rien changer à la tactique ordinaire, c'est-à-dire de ne poursuivre l'ennemi qu'avec prudence et sous aucun prétexte de ne s'engager trop loin. Flavius Gallus répondit que le général pouvait être tranquille. En ce moment, il partait, chargeant les Parthes à la tête de sa cavalerie légère. Toute l'armée le suivit des yeux. Gallus culbuta les Parthes, mais, au lieu de s'en tenir à ce succès, il se mit à leur poursuite. Toute l'arrière-garde, aussitôt, avec de grands cris, l'avertit de l'imprudence qu'il commettait. Ce ne fut pas le tout. Au risque de se faire tuer avec ceux qu'il voulait sauver, le caisseur Titius partit au galop, rejoignit les soldats de Gallus, cria à celui-ci de revenir en arrière. Et comme il n'obéissait pas, il saisit une enseigne et voulut faire retourner celui qui la portait. Mais Gallus donna ordre à l'enseigne de marcher en avant. « Malheureux !» lui cria Titius, « tu te perds et tu perds l'armée. Au nom du salut de Rome, je t'ordonne de te rallier au général. » Mais Gallus n'en voulut rien faire. Titius repartit au galop et revint près d'Antoine, lui disant d'arriver, attendu que dans quelques instants, Gallus et ses hommes allaient être enveloppés. Et en effet, au moment même, la prédiction se réalisait. Gallus, se voyant sur le point d'être enveloppé, envoyait, par le seul point qui fut encore libre, 2 cavaliers demander du secours. Ils passèrent à travers une grêle de flèches. L'un d'eux y resta. L'autre arriva blessé. Alors Canidius, un de ceux qui commandaient après Antoine et auquel le cavalier s'adressa, fit une grande faute. Au lieu d'envoyer un corps considérable pour dégager Galus, il fit partir, les uns après les autres, de faibles détachements qui, les uns après les autres, furent criblés de flèches ou écharpés. Enfin, Antoine, voyant que l'armée tout entière menaçait de fondre ainsi morceau par morceau, accourut à l'arrière-garde, prit toute son infanterie et alla avec elle donner tête baissée dans cette cavalerie parthe dans laquelle il fit une brèche. Par cette brèche purent sortir Galus et ses cavaliers. Mais il était déjà bien tard. 3 000 hommes étaient tués, 5 000 blessés. Les soldats soutenaient Galus sur son cheval. Il avait le corps traversé de 4 flèches. Il mourut avant d'avoir rejoint le gros de l'armée. On rapporta les blessés tout en combattant.